Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Je sais. Je suis partie sans rien dire et je t'ai laissée seule, sans caféine à te mettre sous l'oreille. Je suis désolée et pour tout te dire, la période est plutôt chargée ici côté pro. Mais vois le bon côté des choses. Je suis revenue et en plutôt bonne compagnie puisque cette semaine, je reçois Agathe, la cofondatrice de Holy Mama, la méthode holistique qui révolutionne la mama life. Mais avant d'être une girl boss passionnée, Agathe a connu un bouleversement dans sa vie, la maternité. Pourtant sage-femme de formation, Agathe était loin de s'imaginer le tsunami qui allait la submerger à la naissance de ses enfants. Jacques, 3 ans, et les jumeaux Anton et Aurel, 2 ans. 3 enfants en 2 ans. Il n'en fallait pas moins pour qu'Agathe se retrouve perdue entre cette nouvelle identité de mère, son couple refourgué au 36e dessous, et sa vie professionnelle ponctuée d'un grand point d'interrogation. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Agathe.
Bonjour Élise.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci.
Je suis ravie de te recevoir. On échange depuis un petit moment maintenant, c'est chouette. Je suis ravie de voir ton évolution, mais avant de voir tout ça, est-ce que tu peux nous te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Bah déjà, merci aussi de m'inviter. Je suis ravie et émue un peu d'être ici. Me présenter, donc je suis Agathe. Je suis mariée en couple depuis maintenant 10 ans avec un homme qui est le père de mes 3 enfants. Donc j'ai 3 enfants, Jacques qui a 3 ans et j'ai des jumeaux, Aurel et Anton, qui ont 2 ans. Et je suis sage-femme de formation. Et je me suis réorientée maintenant, comme tu le disais, je suis chef d'entreprise. Je suis cofondatrice de Holy Mama.
Je vais te poser la question traditionnelle de prendre un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ?
Oui, c'était pas un désir profond, mais oui, je savais que j'allais avoir des enfants.
Ah ouais ?
Ouais, c'était évident.
C'était pas... Est-ce que tu t'es posé la question même ?
Non, t'as raison. C'est une bonne question parce que non, je me suis pas posé la question. Et c'est vrai qu'en devenant mère... Je me suis dit, mais ça aurait été intéressant de se poser vraiment la question. Parce qu'en soi, c'était, pour moi, voilà, c'était évident, c'est tout, c'est comme ça. Pas forcément, tu te maries, tu as des enfants, mais je savais qu'un jour, j'aurais des enfants.
Tu as une formation de sage-femme, tu le disais. Donc tout ce qui est autour de l'univers de la maternité, ou en tout cas de la naissance, c'est quelque chose que tu connaissais. Est-ce que ça a renforcé ton envie de devenir mère ou pas ?
Non, je pense pas que ça allait renforcer. Non, ça m'a plus donné de la confiance en disant bon bah je serai pas en total terrain inconnu. Ça a créé aussi certaines craintes parce que tu vois aussi tout ce qui peut moins bien se passer quand t'es sage-femme du coup. Mais ça a pas joué énormément sur le fait de vouloir ou de ne pas vouloir devenir maman.
Ok. Donc tu disais, ça fait 10 ans que tu es avec ton mari, votre premier enfant a 3 ans. Comment s'est installé dans votre chemin de couple ce moment de dire, allez, c'est maintenant, on fait un enfant.
Eh bien, figure-toi, c'est assez particulier et j'en ai jamais vraiment tant parlé que ça. Mais bon, comme je t'ai dit avant, moi, c'était sûr que je voulais avoir des enfants, mon mari aussi. Et lorsqu'on s'est mariés, mon mari a une maladie génétique. Et cette maladie génétique, il se trouvait que tu pouvais faire du DPNI, donc c'est du diagnostic prénatal avant la naissance en fait, donc faire comme une FIV en gros, et sélectionner l'embryon qui n'est pas porteur de cette maladie, parce que la maladie est recevable pour ce genre de choses. Donc moi, en tant que sage-femme, je savais que c'était possible de le faire. Je savais aussi que c'était compliqué, parce que déjà, une FIV, c'est quand même compliqué, même si on n'avait pas forcément de soucis de fertilité du coup. Mais en plus, ça se fait que dans 5 centres en France. Donc moi, je me suis dit, ok, bon, si on veut le faire, il y a des gros dossiers, etc., on commence tout de suite. Donc en fait, j'ai commencé à créer ce dossier-là, on a commencé à faire tous nos tests, etc., en se disant, quand on aura un enfant, moi j'aime bien anticiper les choses, au moins ce sera prêt. Tu vois, c'est pas en mode, on veut un enfant, mais du coup, on doit attendre 2 ans pour faire tout le protocole. Donc ça s'est fait comme ça, et donc tout le dossier était prêt, et puis au moment, donc on était mariés depuis, je sais pas, 8 mois, on a un premier rendez-vous à Paris, du coup, parce qu'on avait choisi Paris comme centre, et les résultats de mon mari n'étaient pas forcément formidables, et ils nous disent, ben voilà, on pourra commencer la procédure dans 9 mois à 12 mois. Alors moi, quand on me dit ça, j'en voulais pas forcément maintenant, mais ça me paraissait énorme. Donc on se dit, bon, bah ok. Suite à ça, on est parti en voyage de noces. Je devais enlever mon stérilet en cuivre parce que ça fait plus de 5 ans que je l'avais. C'est la limite. Et du coup, j'ai enlevé mon stérilet. Mon mari a dit, de toute façon, bon, à mon avis, ça n'a pas fonctionné. Enfin voilà, on arrête de se prendre la tête, on verra bien. Et en parallèle, je m'étais inscrite. Enfin, on s'était inscrit avec mon mari, mon mec, je préfère dire ça, ça fait plus jeune.
Dis mon mec.
À un Ironman, donc un... Tu vois, moi, je m'étais dit, bon, au moins, j'ai cet objectif-là en tête pour faire passer le temps, entre guillemets.
Ouais. C'est un événement sportif, c'est ça?
Ouais, c'est un événement, un triathlon, en fait. Mmh. Et figure-toi que j'enlève mon stérilet et que, ben, je tombe enceinte tout de suite.
Pendant le voyage de noces?
Non, c'était pas le voyage de noces, c'était pas assez cliché. Je crois que je l'ai enlevé après, en rentrant. Mais je l'ai enlevé en novembre, je suis tombée enceinte de Jacques, du coup, en novembre.
Ah ouais, donc grosse surprise. Ouais.
Bah, grosse surprise, effectivement, mais belle surprise, parce ouais. que je me suis dit, waouh, tous les deux, c'est fou, en fait, ça fonctionne, bah, c'est tout, on fait confiance à la vie, c'est que c'était le bon moment, et c'est que c'était comme ça que ça devait se faire. Et donc, on zappe le DPI, c'est pas le DPI, ouais. je t'ai dit.
Et ça t'a fait peur, cette idée, est-ce que t'as ressenti une angoisse au niveau de cette possibilité de transmission de maladie génétique?
Non, moi, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout cette angoisse, c'est pas une maladie grave du tout. C'était plus dans la famille de mon mari, tu vois, le côté... c'est des choses voilà, qui ont été douloureuses, qui sont douloureuses pour eux, même si c'est pas grave, mais voilà, c'était plus de leur côté que c'était important. Moi, non, pas du tout d'angoisse par rapport à ça.
Donc, t'as un retard de règles et c'est comme ça que t'apprends ta grossesse? Tu fais pipi sur un petit bâton?
Oui, je fais pipi sur un petit bâton. Très vite, ouais, 2 jours, je connais bien mes cycles, je connais bien mon corps. En plus, j'étais au cuivre, donc j'ai toujours eu des cycles. Enfin, ça fait 5 ans que j'avais des cycles. Donc, je fais pipi sur mon petit bâton, effectivement. Et là, chaud, froid, frisson, pleurs, stress, bonheur. Enfin, vraiment le mélange, tu sais, de plein d'émotions. C'était vraiment fou de ressentir tout ça dans ton corps en même pas une seconde.
Et comment se passe la grossesse?
Très bien.
Ouais.
Franchement, rien à dire. Enfin, si, premier trimestre, un peu pénible, clarté nucale importante, risque de trisomie 21, donc un petit stress, mais au fond de moi, je savais que ça allait et ça allait. Super grossesse, j'ai fait un accompagnement global avec une sage-femme formidable que j'embrasse. Donc, super grossesse et je me sentais super belle, super féminine et tout. Donc, c'était vraiment agréable. Aucun souci de santé. Par contre, mon bébé, c'était un gros bébé. Et il ne voulait pas sortir.
Oh.
Ouais. Donc voilà, dépassement de terme, déclenchement et naissance par césarienne.
Donc, ouais, donc ouais. Finalement, pas parce que tu avais imaginé sur la naissance, mais est-ce que tu vis bien?
Oui, très bien.
Ouais.
Pas une naissance effectivement physiologique, mais dans mon corps, je sentais en fait que c'était pas possible. Et tu vois, moi je suis très très physio. Mais je suis aussi sage-femme, c'est une formation médicale et je connais aussi les limites de la physiologie et là je savais que pour le coup ça n'aurait pas pu en être autrement et je remercie justement le côté médical, la césarienne d'exister parce que je sais que, enfin, je me dis comment ça aurait pu se passer parce que mon bébé faisait quand même 4,650 kg. J'ai su après avec les jumeaux que j'avais vraiment un petit bassin, il avait aussi un très gros périmètre crânien, Jacques. Et en fait, ça n'aurait jamais pu passer. Donc, je me dis, ben, comment on aurait fait sans ça? Donc, très reconnaissante. J'ai eu vraiment une équipe médicale formidable qui a été très respectueuse. J'étais actrice, en fait. C'est moi qui ai décidé de ma césarienne.
Mmh. Oui, tu vois, ça change tout.
Ça change vraiment tout. L'obstétricienne, à 20h, j'aurais pu déjà la voir.
Mmh.
Et il n'y avait personne. Donc, elle aurait pu se dire, il est 20h, je fais sa césarienne, je vais me coucher. Et en fait, non... À minuit, elle est venue, elle a dit, bon, on laisse le temps. Elle n'a jamais dit elle-même, on va vous faire une césarienne. Elle m'a dit, on vous laisse, je t'abats. C'est-à-dire, elle me regarde l'air de dire, tu sais, t'es sage-femme. Ouais. Mais elle ne voulait pas me le dire. Et c'est moi qui ai dit à 1h, avec mon mari, j'avais appelé ma sage-femme. Ok, go, on y va, quoi, césarienne. Donc vraiment, super bien vécu, alors que c'était une césarienne assez costaud, parce que j'ai quand même eu une ventouse, alors qu'elle était en césarienne.
Ah, ouais.
Il y avait une grosse tête... Mon fils, donc voilà, mes super accouchements finalement, super séjour en maternité.
Ouais. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse sur Prendre un café, c'est beaucoup tout ce qui touche au devenir mère.
Mm.
bien plus que la logistique et tout ce qui va avec les nuits, et même si c'est difficile et que ça impacte le devenir mère, mais comment s'est passée la rencontre avec ce bébé et ta rencontre avec ta maternité ?
Eh bien, vraiment, les deux premiers mois, absolument formidables. J'étais vraiment bien, tout se passait bien. Je ne me posais pas de questions, j'étais vraiment très bien. Ensuite, ça a commencé à être plus compliqué. Je ne sais pas trop comment recréer, retranscrire toute cette histoire, mais je sais qu'à un moment donné, en tout cas, ça a été compliqué. Donc oui, il y a eu le fait que mon bébé avait du reflux, qu'il ne dormait pas. Donc effectivement, postpartum, après 2 mois, compliqué. Et là, effectivement, un tsunami, en fait. Un tsunami parce que je ne m'attendais pas à ça, parce que je pensais pas à tout ça. Et là, émotionnellement, ça devient très compliqué, plus difficile à gérer pour moi. En plus, à l'époque, mon mari travaillait beaucoup. Il travaillait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il a pris même pas 10 jours de congé pat. Encore, au bout de 4 jours, ils en allaient retour sur Paris. Il dormait souvent à Paris. Donc, il n'aimera pas que je dise ça parce qu'il était hyper présent quand il était présent. Mais n'empêche qu'il travaillait beaucoup. Et que moi, professionnellement, je savais plus trop où j'en étais. Je faisais des remplacements, donc j'avais pas de boulot. J'avais pas de perspective non plus de reprendre le travail, hormis de retrouver un remplacement. Et là, un peu. De colère, tu vois, par rapport à cette condition, de se dire mais en fait, pourquoi c'est moi qui suis là, toute seule? Vraiment, je me sentais hyper seule, parce que j'osais pas non plus demander vraiment de l'aide. Tu vois, je m'étais un peu mis en mode, je suis une warrior, je vais y arriver. Et en plus, je travaillais pas. J'avais choisi de prendre un congé de 6 mois. Donc, en plus, j'avais pas de raison. Tu vois, c'était un peu ça mon métier, et du coup, je devais y arriver, quoi. Et donc, je pense que j'ai voulu trop en faire, j'ai voulu être trop puissante. Et je me suis pris une grosse claque, vraiment une grosse claque. Et après, plus du côté psy, je pense que je t'en parlerai plus avec les jumeaux parce que c'est plus là que c'est ressorti. Tout ce chamboulement parce que ça a été très rapproché. Mais voilà, mais en gros, ensuite, il y a eu le confinement. Donc, Jacques avait 8 mois. Juste avant ça, on est parti en vacances. C'est vraiment en lien avec le devenir mère, c'est pour ça que je le raconte. J'étais seule du coup avec mon fils, avec ma mère. Mes parents sont divorcés. Et mon frère et ma belle-sœur et leurs 2 enfants, dont leur 2e qui avait le même âge que Jacques. Mais ils n'étaient pas dans les mêmes difficultés. Et là, pour faire très court, ce voyage, ça a été juste l'enfer.
Ah ouais.
Tu vois, en fait, le fait de se retrouver... Donc on était 2 déjà à devenir mère ou à redevenir mère pour ma belle-sœur. On était toutes les 2, je pense, un peu... dans un mécanisme psychique, émotionnel, remaniement, tu vois, compliqué. Sauf que toutes les 2, on ne mettait pas des mots dessus, parce que moi, c'était mon premier. Et ma belle-sœur, parce que je pense que son premier, ça avait été tout à fait différent. Et en plus, dans tout ça, pour se poudrer, il y avait ma mère. Là, effectivement, il s'est passé plein de choses. Enfin, c'était lunaire, ce voyage, mais je ne peux pas raconter tout en détail, mais ça a été très, très, très douloureux. Très douloureux parce que j'attendais certaines choses de ma mère qui se sont pas passées, mais elle, je pense qu'aussi il se passait plein de choses dans sa tête, parce que ça se passe pas uniquement que pour la mère, je pense que ça se passe pour les autres générations. Mmh. Et donc un clash énorme, si bien qu'on est arrivé le samedi et le mardi, mon mari est venu me rechercher avec mon fils et je suis partie avec lui et on ne s'est pas parlé pendant... heureusement, il y avait le confinement, ça faisait une bonne excuse pour ne pas se parler, mais je pense qu'on ne se serait pas parlé quand même pendant plusieurs mois. Donc là, plus de son, plus d'images. Moi, j'étais effondrée. Là, je pense que ma psy me dit, il ne faut pas forcément mettre des mots, mais en tout cas, j'étais émotionnellement vraiment, vraiment, vraiment au fond. Et du coup, là, ce n'était pas que à cause du manque de sommeil, c'était vraiment tout cette tempête qui m'avait explosé en plein visage. Et le confinement me sauve, en fait. Parce que là, on se retrouve dans notre bulle. En fait, moi, je suis quelqu'un de très famille. J'aime beaucoup ma famille. J'ai une famille assez complexe parce que mes parents sont séparés et mon père a eu 3 femmes. Enfin, en fait, j'ai 8 frères et sœurs, ouais. Mais que des demi, un peu dans tous les sens. Mais on a vraiment ce sens-là de la famille. Et pour moi, c'est important. Et en fait, ma belle-sœur et ma sœur aussi me disaient, mais tu sais, il faut que tu... Et mon frère aussi me disait, mais il faut que tu te sentes sur ta famille, en fait. Et du coup, moi, j'étais en colère parce que eux... Ils étaient centrés sur leur famille déjà, normal, ils avaient des enfants. Et moi, je n'avais pas encore intégré ça, tu vois. Et donc, effectivement, ce confinement, je me centre sur mon mari et Jacques. nous trois. Ça a été génial. Ça a été formidable. En plus, Adrien, il était tout le temps présent. Jacques, comme par hasard, a fait ses nuits. Donc là, c'est devenu vraiment le rêve, quoi. Il faisait super beau, en plus, au confinement.
Ouais, c'est vrai.
C'était génial. On allait courir. Non, franchement, c'était super.
Ben justement, ouais. c'est marrant. Enfin, il n'y a pas de hasard hein, dans ce... Il n'y a jamais de hasard. Mais ce côté, mon bébé fait ses nuits à ce moment-là. Se recentrer, en fait, c'est vraiment ça. C'est faire famille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas... C'est, en fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment cette transition du devenir mère. Mais donc, de passer de ce statut de fille à mère... Et donc, ça veut dire se détacher de sa mère et sa mère qui devient grand-mère. C'est très, très complexe.
Ah, complètement.
C'est souvent des grosses périodes de turbulence dans les échanges familiaux. C'est hyper fréquent. Mmh. On n'ose pas toujours le dire. On n'ose pas toujours s'affirmer parce qu'on a besoin aussi de ces personnes ressources, parce qu'on le dit bien, un village pour élever un enfant. Mais c'est vraiment des moments hyper charnières à ce moment-là. Et enfin... J'ai vécu hein, ce genre de choses, pas aussi... Moi, c'était pendant la grossesse déjà, direct, genre, clashons. Clashons tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hein, on est tranquille.
C'est un peu une remise à zéro, en fait, la grossesse.
La maternité, c'est ça. Mais c'est clairement ça, en fait. En plus, il se passe tellement de choses en termes neurologiques, au niveau de la transparence psychique. Il y a des choses qui passent dans ton conscient que tu avais oublié, que tu avais enfui. Et d'un coup, c'est... Ça devient presque ton problème majeur alors que tu ne sais pas d'où ça sort. Il y a vraiment cette particularité au moment du devenir mère, au moment de la grossesse, au moment de l'accouchement, qui sont uniques, en fait.
Complètement.
Tu ne vis pas ça à un autre moment.
Non.
J'ai une question pour toi. Quel était ton idéal de schéma familial ?
Mon idéal, c'était pas mon schéma familial que j'avais vécu. Parce que mes parents ils n'étaient même pas divorcés parce qu'ils n'étaient pas mariés, mais ils se sont séparés très tôt. J'avais un an. J'ai jamais eu le même nom que ma mère. Je te dis ça parce que pour moi, c'était hyper important. Le mariage, mais pas dans le sens on se marie, mais on a le même nom. On est une entité, tu vois. Et donc, oui, mon schéma idéal... En fait, je suis un peu partagée entre du coup le schéma idéal de le papa, la maman... Et les enfants, ça dure toute la vie, et plus tard, on a nos petits-enfants, on les reçoit à Noël, enfin, tu vois, voilà, vraiment le cliché, pour moi, c'est vrai que c'est un idéal, et donc qui est contraire à ce que j'ai vécu, et en même temps, comme ce que j'ai vécu, il y avait beaucoup d'amour, j'ai aussi ce truc de pas de pression, genre, bien sûr, c'est pas mon but de divorcer, c'est pas mon objectif, mais en même temps, j'ai pas cette peur, parce que je fais confiance à l'amour... Si ça arrive, en fait, je pense que en tout cas moi et je suppose qu'Adrien aussi, on sera assez intelligent pour faire les choses bien et rester donner encore de l'amour à nos enfants et à la famille qu'on a créée. Donc tu vois, c'est un peu ambivalent hein, ce que je te dis, mais oui, j'ai un idéal, mais c'est pas vraiment un idéal. C'est oui, je tends vers ça, mais si ça n'arrive pas, bien sûr, je me donne tous les moyens pour y arriver. Mais j'ai pas non plus cette peur de pas y arriver, tu vois.
Ouais. Est-ce que tu t'es toujours imaginé avec plusieurs enfants ?
Oui.
Ouais. Parce que tes enfants ont un écart d'âge très rapproché. Est-ce que tu avais imaginé déjà qu'ils arriveraient par deux ?
Ah, ça non.
Et est-ce que justement, à quel moment tu as ressenti un désir d'un nouvel enfant ? Est-ce que tu l'as ressenti ou est-ce que c'est arrivé par surprise ?
Non, c'était pas une surprise. Comme je te disais, c'était vraiment le bonheur absolu. On était dans un état de lune de miel à trois, quoi. Du coup, on était heureux. Et puis, comme je te l'expliquais au début, on ne pensait pas que Jacques il allait arriver aussi vite. C'est vrai qu'on ne s'est même pas reposé la question du DPI pour notre deuxième et troisième, du coup. Et on s'est dit, on a peut-être juste eu un coup de bol pour Jacques. On savait qu'on voulait d'autres enfants, 2, 3, 4, on ne savait pas trop. Mais on s'est dit, Autant recommencer, parce que ça tombe, on va avoir du mal, et là, ça n'arrivera pas tout de suite, et peut-être que, tu vois, encore dans mon anticipation, peut-être qu'on aura recours à la PMA, donc on se dit, on y va. Ah non, j'ai une anecdote très drôle à te raconter. J'avais de nouveau un stérile au cuivre, donc gros confinement, donc tu prenais pas de rendez-vous pour enlever ton stérile au cuivre. Mais je suis sage-femme. Et donc... on discute de tout ça avec Adrien, et on se dit, si j'arrive à enlever mon stérile toute seule... On y va. Donc, t'imagines que j'ai réussi à le faire. Et on se dit, bah voilà, on teste et rebelote. J'ai beaucoup de chance. On a beaucoup de chance, mais je suis tombée enceinte tout de suite. Pareil, 2 semaines après, quoi.
Ouais.
Donc là, j'étais contente parce que j'étais bien. Le confinement, c'est aussi une période où je me suis un peu cherchée professionnellement. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et j'ai un peu... avant Jacques, je me cherchais aussi professionnellement. J'adorais mon métier, mais je sais pas, il me manquait quelque chose. J'étais un peu perdue. Et du coup, je m'étais posé la question de me dire, bah tiens, pourquoi pas être mère au foyer? Mais déjà, pour Jacques, je m'étais rendu compte qu'en fait, non. En fait, c'était pour moi le plus dur métier au monde. Et qu'en fait, c'était pas fait pour moi. Mais là, je me suis dit, bon, bah, je sais pas trop encore où j'en suis professionnellement. On lance le deuxième. Bon, bah voilà, 2 grossesses rapprochées, je reprendrai... Par contre, je m'étais dit, là, à 3 mois, je reprends, quoi.
Clairement, ah oui,
je...
là, oui, tu t'imaginais pas prendre les 6 mois comme tu l'avais fait avec le premier.
Non, ça a été trop dur. Trop dur pour moi, non. Et puis, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas moi, en fait. Ouais. Je suis quelqu'un d'hyperactive et j'adore bosser. Et donc, non, c'était pas moi. Ça, j'avais trouvé une réponse. Donc, les deuxièmes...
arrivent dans ce contexte.
Ils arrivent dans ce contexte-là. Donc, on est super contents. Genre, waouh, c'est dingue, c'est fou. Ouais. On a trop de chance, quoi, en fait.
Il y a des jumeaux dans ta famille?
Non. Donc, énorme surprise.
Ouais. Tu l'apprends à quel moment? Tôt ou...
à l'échographie de datation, du coup. Donc, j'étais seule. Enfin, Adrien, il était avec Jacques dans la voiture.
Oui,
mais il pouvait pas venir.
Oui.
Non. Donc, j'étais seule. Et en fait, c'est vrai que j'étais vraiment très, 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 très fatiguée. Nausée un peu, mais pas tant que ça. J'ai pas trop ces symptômes-là, moi, enceinte. Mais épuisée. Enfin, j'étais par terre tout le temps. Vraiment allongée. Je me rappelle que je jouais avec Jacques par terre. Voilà, vraiment très fatiguée. Je me dis, tiens, ok, c'est un deuxième, mais bon, enfin, entre guillemets, on fait rien, quoi. Tu vois, t'avais aucune sollicitation, hormis vivre à ton rythme. Jacques dormait super bien. Je trouvais ça un peu bizarre. Et puis, je pense que j'ai une certaine connexion aussi. Je sentais en moi que c'était pas comme pour Jacques. Et je me rappelle qu'avec mes copines sages-femmes, j'ai un groupe, je dis, c'est bizarre, les filles, imaginez, pour rire, c'est des jumeaux et tout. Ma belle-sœur aussi, la veille de l'écho, je dis, mais imagine, c'est des jumeaux et tout. Chose que je n'ai pas du tout dite pour la grossesse de Jacques. Donc, tu vois, je pense qu'il y avait un petit truc. Et donc, on fait l'échographe. Enfin, l'échographe fait l'échographie. Et là, il y a eu donc 6-8 semaines d'aménorrhée, quoi. Ok, bon, bah, tout va bien, le cœur bat et tout. Et j'étais, ah, ok. Enfin, tu vois, pas en mode contente, tu vois. Enfin, j'étais... Ok, il me manquait un truc, tu vois. Et il continue, là je vois, il était à 2 doigts de finir et puis il regarde, et là je le vois. Donc là je comprends. Mais il faisait une tête bizarre, tu vois. Donc, je dis mince, il y a un deuxième et ça va pas, quoi. Enfin, le deuxième est pas viable et tout. Et donc je dis, bon, il y a un deuxième. Donc je dis, bon, c'est sûr, ça va pas. Donc je dis, ah oui, du coup, ça va pas et tout. Si, tout va bien, ok. Mais donc voilà.
T'avais l'impression qu'il te l'annonçait comme une mauvaise nouvelle.
Ouais, mais je pense qu'il était aussi peut-être mal à l'aise parce qu'il était à 2 doigts de me dire ciao en fait. Et qu'en fait il y en avait 2. Et que pour certaines personnes, je pense qu'il savait aussi que mon premier avait 8 mois. Donc il me l'annonce un peu comme une mauvaise nouvelle. Moi j'ai un peu peur, du coup je me dis ben. Et puis il me dit bon, ben voilà, on sait pas. Hein, voilà, là il est là, mais dans 15 jours il sera peut-être plus là non plus. Donc j'étais ok. Tu sais, du coup, tu savais pas trop quoi penser. Et en même temps, encore une fois, au fond de moi, je savais que ça allait aller, tu vois. Donc voilà comment j'apprends qu'on a des jumeaux.
Qu'est-ce que tu ressens, toi?
En fait, sur le coup, rassurée parce que c'était la connexion que j'avais. En fait, c'était le sentiment que j'avais. Donc sur le coup, j'étais ok, génial. Enfin, je sentais qu'il y en avait 2 et ils sont tous les 2 là. Et puis ensuite, moi, en tout cas, une fois qu'ils étaient tous les 2 là... et qui m'avait dit peut-être que le deuxième peut partir, c'était juste impossible, inconcevable pour moi qu'il parte, tu vois, j'avais trop peur de ça. Et ensuite, sur le long terme, la grossesse, j'étais flippée. Ouais. Flippée.
Tu penses que ça a donné ce point de départ de stress, cette échographie où on te dit potentiellement il ne va pas rester le deuxième?
Ah, c'est intéressant que tu me poses cette question-là. Je ne sais pas. Franchement, ça serait à approfondir. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire non. Mais ça peut être intéressant de le creuser, ouais. Parce que je sais qui c'était le deuxième. Et ouais. Ouais.
J'aime bien poser des questions. J'aime bien poser des questions comme ça.
Tu ouvres peut-être une porte.
Et tu l'annonces comment à ton mec?
En fait, j'étais en pleurs.
Ah ouais?
J'étais tremblante. J'arrive dans la voiture. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je savais pas parler. Impossible de parler. Du coup, je lui donne l'échographie. Et je dis, regarde. Donc, il regarde. Donc, il lit. Je vois qu'il tourne la page et tout. Il me dit, ok. Je dis, Puis là, il revient en arrière. Il dit, j'ai mes nerfs, c'est quoi? J'ai mes nerfs, c'est 2? Oui. Et là, on pleure tous les deux. complètement sous le choc, quoi. Ouais. Mais en même temps, c'était un choc de bonheur, tu vois. Ça pourrait être un choc en mode ouais, c'est
horrible. Bah, c'est flippant aussi en même temps. Enfin, ouais. Les enfants rapprochés, c'est déjà quelque ouais. chose. Mais alors, en plus, quand on a.
Bah, ouais.
Et en même temps.
Mais je pense que nous, on aime bien les challenges.
Ouais.
Et du coup, c'était plutôt une nouvelle. Enfin, en tout cas, là, au moment de l'écho, c'était, ouais. c'était une bonne nouvelle. Mais comme je te disais, après, pour moi, c'était.
Ouais, difficile. Difficile. Comment tu vis la grossesse?
Bah, pareil, super grossesse, hein, médicalement, aucun souci. Par contre, émotionnellement, là, je me suis dit, c'était difficile parce que, en fait, pour Jacques, j'avais envisagé d'allaiter un an. Enfin, tu vois, j'étais dans ce délire-là, l'allaitement. Enfin, c'est pas un délire, hein, parce que ça peut porter à confusion, ça peut paraître non, négatif ce que je dis, mais je m'étais dit, voilà, pendant un an, je l'allaite, le cododo longtemps, accouchement sans péridurale, couche lavable, que des habits éthiques, vintage récupérés, pas de perturbateurs. Enfin, tu vois, j'étais vraiment, mais j'étais trop, en fait. C'était trop.
C'était une pression, finalement.
Mais bien sûr, je m'étais mis une pression de malade, en fait. Et donc là, je m'étais dit, c'est pas grave. Enfin, entre guillemets, ma deuxième grossesse, l'allaitement, il se passera mieux, je pourrai aller loin, il n'aura pas de reflux, je pourrai accoucher sans péridurale et tout. Et en fait, là, je me dis, non, j'ai mes nerfs, c'est forcément médicalisé. Allaitement, merci, je m'imaginais pas allaiter un an des jumeaux. Donc, ça m'a un peu cassée là-dedans. Et en même temps, je pense que c'est une bonne chose parce que si, peut-être qu'ils avaient été uniques, je me serais remis cette même pression pour mon premier, tu vois. Bon, ça m'a pas empêché que ce soit difficile, mais ça m'a permis d'explorer d'autres choses. Et par contre, émotionnellement, je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse accompagner. Et donc, j'ai été suivie pendant toute ma grossesse par Nina. Enfin, je peux la citer, je pense. C'est les chroniques de Nina.
Bien sûr.
Qui est absolument formidable, qui est sage-femme aussi de formation et yoga-thérapeute et tant d'autres choses. Et qui m'a fait énormément de bien. Donc, c'était vraiment un suivi émotionnel où on travaille avec le corps, avec l'esprit, où elle m'a, on a travaillé sur plein de choses dans ma famille, avec mon père, sur ma mère. Et ça m'a. Du coup, ça m'a fait du bien. Tu vois, je me suis sentie forte, je me suis sentie un peu armée, tu vois.
Ouais.
En tout cas, émotionnellement, je me sentais apaisée grâce à ce suivi-là.
Ok. Et ton lien avec ta mère pendant ta grossesse, est-ce qu'il s'était rétabli entre temps ou est-ce que vous étiez toujours un peu en froid?
Oui. Il s'est rétabli en juin, du coup, post-confinement. Enfin, ça a été du coup très compliqué parce que moi, j'en ai vraiment, vraiment voulu. Parce qu'avec ce qui s'est passé, j'ai découvert une facette de ma mère qui m'a vraiment peinée. Enfin, vraiment une désillusion hyper importante. Notre lien, il ne sera jamais ce qu'il a été. Il restera vraiment, en tout cas pour moi, toujours endommagé par ce qui s'est passé. Mais il s'est rétabli pour Jacques, en fait.
Ouais.
Du coup, elle s'occupe énormément de mes enfants, de mes trois enfants. Elle est vraiment hyper présente. J'ai rien à dire là-dessus. Et du coup, le lien est créé autour de ça, en fait, maintenant. Et nous, on s'entend, tu vois, mais depuis la naissance des jumeaux, on a, même la grossesse des jumeaux, on n'a jamais fait un restaurant en tête-à-tête ou jamais on s'appelle juste pour se prendre des nouvelles. C'est OK, tu récupères Jacques, OK, machin, tu vois.
Le lien mère-fille est... Et distendu et compliqué. Mais c'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à l'émancipation.
Oui.
C'est ça.
Complètement.
Les jumeaux arrivent. Ils arrivent dans quelles circonstances? Enfin, tu as de nouveau une césarienne ou...
Ouais, en fait, c'était super. Donc, j'aurais pu accoucher par voie basse, médicalement. C'est pas parce que c'était des jumeaux que j'avais une césarienne avant. Ça, c'était OK. Mais en revanche, ils font une radio du bassin parce que le deuxième. Ou même le premier, mais le premier était en tête. Le deuxième peut être en siège, bref. Mais ma radio du bassin, vraiment en niette, bassin vraiment trop petit. Ils disent non, c'est pas possible. Du coup, un peu déçue. Mais en même temps, ça me consolidait par rapport à l'accouchement de Jacques. Et en même temps, OK, merci, le côté médical d'exister et de ne pas prendre de risques pour mes bébés. Donc, césarienne programmée. Le vendredi 11 décembre, on programme une césarienne pour le 18. Donc, un peu déçue, par contre, de la programmation. Parce que Jacques, j'avais été déclenchée, mais j'avais quand même eu des contractions, etc. Donc, j'avais été quand même actrice. Et là, déclenchée, c'est vraiment en mode, t'y vas avec ta valise, t'ouvres le ventre. Comme si, moi, j'ai cette idée, je vais au supermarché acheter un truc et je ressors avec, quoi. Et ce côté de ne pas ressentir dans mon corps, ça me dérangeait vraiment beaucoup. Et en fait, absolument génial, parce que le samedi matin, 8h, Jacques se réveille, 8h, 8h30. Et je vais le chercher dans son lit, là, je romps la poche des os. D'Aurel, le premier. Et là, j'étais trop contente. Enfin, j'étais complètement perdue. J'étais, attends, j'ai rompu la poche des os, mais je fais quoi? Du coup, j'attends quand même la semaine prochaine pour ma césarienne. Enfin, tu vois, la sage-femme, elle n'était pas là du tout. Et donc, super contente. Je romps la poche des os. Ma mère arrive chercher Jacques. On part au bout d'une heure. Et là, j'ai des contractions spontanées que je n'avais pas eues, du coup, pour Jacques. Et là, génial. Moi qui suis passionnée à la physiologie, je vis vraiment la physiologie, quoi. Contractions, qui augmente au fur et à mesure. J'arrive à la maternité, ils me disent pas pourquoi. Enfin, donc j'explique, j'ai une césarienne programmée. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai accouché à Tourcoing, ils sont très physio. Donc je dis, ah bah non, c'est parce que vous avez des jumeaux. Je dis, ah bah oui, mais radiopelvimétrie. Ah oui, bon, effectivement, et tout. Donc ils étaient aussi un peu déçus. Et il y avait du monde, donc j'attends. Et là, je vis mes contractions, mais à fond. Mais c'était génial, quoi. J'étais vraiment un animal, c'était trop bien. J'étais dans ma bulle, j'étais vraiment connectée à fond. C'était trop, vraiment trop génial. Je dis pas, mais c'était vraiment...
Ouais, t'as kiffé, quoi.
J'ai adoré, ouais. Et je me rappelle, du coup, je commençais vraiment à monter... l'anesthésiste rentre à un moment vers 1h. Ouais, ça devait être vers 1h, parce qu'ils sont nés à 13h31 et 13h33, le 12-12. Et puis, il m'entendait rugir, quoi. Et je pouvais pas lui répondre, parce que je pense que j'étais déjà loin. Et il me dit, bon, madame, on va se dépêcher. Et dans ma tête, je dis, ah, non, vous dépêchez pas, laissez-moi, tu vois. Laissez-moi, j'étais bien, venez pas, en fait. J'avais pas envie qu'ils viennent. Je me rappelle, à un moment, même, je vais aux toilettes et j'avais envie de rester dans ces toilettes. Et en fait, je sais qu'Aurel, j'aurais pu le mettre au monde. Parce qu'en plus, ils étaient à 37 semaines. Donc, c'est vrai qu'ils étaient prévus gros bébé, mais du coup, à 37 semaines, ça allait. Et là, ouais, là, ça a été un peu plus douloureux. Du coup, ils ont vu que pour moi, c'était avancé. Et donc, ils se sont un peu dépêchés pour la césarienne. Et donc, j'ai eu la césarienne. Mais jusqu'au moment où ils m'ont posé la rachis, j'étais assise. J'étais, vas-y, Aurèle, vas-y, c'est le moment où tu peux sortir. Ah, ouais. Et je sais qu'il aurait pu sortir vraiment.
Et donc, c'est ça, possible, ça, d'ailleurs, de faire un accouchement voix basse pour le premier et une césarienne pour le deuxième?
Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, ils aiment pas trop, hein, parce que c'est pas terrible pour le deuxième. Ouais. Puis ça me crée un peu un contexte d'urgence. Mais moi, j'avais pas peur de ça. Mais donc, ils sont tous les deux nés par césarienne. Et du coup, ça s'est bien passé. Mais tu vois, par rapport à Jacques, où je te dis que j'ai bien vécu la césarienne, alors que j'aurais pas dû avoir de césarienne. Alors que les jumeaux, tu te dis un peu plus que tu vas avoir une césarienne et que je m'étais plus préparée à la césarienne pour eux. Bah, j'ai moins bien vécu la césarienne parce que j'ai ressenti vraiment que Aurèle, et après j'ai un doute sur Anton, je ne pourrais jamais savoir, mais qu'Aurèle aurait pu naître par voix basse.
Ouais, t'as ce sentiment d'inachevé un peu.
Ouais. Ah ouais. Oui, complètement.
Ok.
Oui, et puis vraiment que là, pour le coup, on m'a coupé, c'est le cas de le dire, dans ma physiologie. Mais je n'en veux pas parce que.
C'était prévu comme
ça. Oui, c'était prévu. Ouais. Il n'y a pas eu. Ils ont très bien fait leur job, mais. Mais voilà.
Ok. Comment t'accueilles ces petits bébés? Comment tu deviens de nouveau maman? Et pour la deuxième et troisième fois en même temps?
Bah, franchement, j'ai vraiment de la chance. Les deux premiers mois, pour moi, c'est tout le temps...
C'est l'une de miel.
J'ai de l'ocytocine à fond. Je sais, j'ai pas de baby... Enfin, j'ai un baby blues quand je quitte de la mater parce que je quitte le cocon et je me sens très fragile, mais ça dure pas longtemps. J'ai des allaitements... tu vois, les jumeaux, je m'étais pas mis de pression. Je dis, bon, ça marche pas, tant pis. Allaitement, pourtant, ils étaient petits, tu vois, 2,5 kg, 2,7 kg. Directement, ils têtent. Tout se passe bien, ils perdent pas de poids. Tout va bien. On rentre à la maison, donc j'avais quand même une césarienne un peu plus costaud du coup pour Jacques. C'est quand même douloureux, tu vois. Tu peux pas trop marcher, dès que tu tousses, ça te fait mal. Porter Jacques, c'était impossible, bien évidemment. Mon mari, on rentre de la maternité, tombe dans l'escalier, se casse le pied.
Oh non.
Si, je te jure. Donc là, pareil, ocytocine, lune de miel, on se marre, quoi. Alors qu'en fait, c'était juste le pire scénario possible. Enfin, on avait quand même Jacques, avait 15 mois.
C'est ça.
Heureusement, il marchait, il était déjà pas mal autonome, mais quand même,
ça vois,
il était encore
quand même, hein.
Ouais, il était encore en lit à barreaux. Et on a une maison, enfin, il y a quand même les escaliers, quoi. Donc voilà, mais là, pour le coup, Adrien, j'avais beaucoup, beaucoup préparé le postpartum aussi avec Adrien. Je dis, mais là, en fait, non, quoi. Enfin.
Tu retournes pas travailler.
Tellement de colère, pas contre lui, hein, mais vraiment contre la société. Parce qu'en soi,
contre le système.
Ouais, c'est pas de sa faute à lui.
Mais entre deux, il n'y a pas eu où les 28 jours, c'était pas passé entre deux? Non, pas encore.
Je sais plus. Je pense que c'était juste après. Ouais, parce qu'on est en décembre, mais je crois que ça arrivait en juillet.
En juillet, ouais, c'est ça.
Donc non, mais par contre, il avait pris un mois.
Ok.
Il y avait un mois, il y avait beaucoup moins de pression au niveau du travail. Il avait passé.
Puis bon, c'était décembre, c'est souvent une période un peu plus calme.
Ouais. Ouais. Donc, il prend, c'est un mois, mais dans le plat, quoi. Enfin, il n'y avait pas de plat, mais avec son
pied. Ouais, vous êtes tous les deux en convalescence, quoi.
Complètement. En plus, moi, pour la petite anecdote, enfin, ce n'est pas une anecdote, mais ma cicatrice s'infecte, donc je dois retourner à la maternité, je me fais réouvrir. C'est marrant, tu vois, de me faire réouvrir pour la deuxième naissance. Parce qu'Anton, je pense que ce n'était pas son moment pour lui, le 12-12. Et donc, tout se passe bien. Même Adrien, après, c'est un mois là, de congé, au final... Il reste quand même assez présent à la maison. Et puis moi, je m'étais inscrite à une formation de naturopathe en mai. Donc je savais aussi qu'à 4 mois, ciao, bonsoir. Enfin, ciao, bonsoir.
Non, mais t'avais une deadline.
Mais j'avais une deadline,
une reprise.
J'avais pour moi, cette porte de sortie. Ouais. Je sais que pour certaines mamans, reprendre le boulot, c'est horrible. Mais moi, c'était vraiment ma bouffée d'air de me dire, je vais me retrouver.
Ouais. Et puis, bon, t'avais enchaîné aussi avec Jacques, où t'étais restée beaucoup avec lui et tout ça. Bah enfin, c'est pas juste un postpartum, enfin, c'est deux postpartums.
Ah, mais complètement. Oui, mais bout à bout, avec en plus, c'est ça que j'ai pas approfondi la question pour Jacques, sur mon devenir mère, parce qu'en final, j'ai pas pu. Ça a été tellement rapide. Enfin, il avait 8 mois, je suis retombée enceinte. Ouais. Et voilà, j'ai pas creusé vraiment tout ce qui s'est passé émotionnellement pour moi, pour Jacques. Et donc, du coup, ça se passe globalement bien. Bien. Enfin, c'était hard, bien sûr, mais ça se passe bien. On a un super village, vraiment.
Ouais. Vous êtes bien entouré.
Super entouré. Que ce soit, du coup, Adrien, mes parents, bref, super bien entouré. Et puis après, bah, pareil, hein, que Jacques, reflux, nuit horrible, horrible, horrible. Jacques qui se remet, enfin bref, vraiment horrible. Enfin, on ne dormait pas, en fait, c'était que des nuits blanches. On a eu une nounou nuit aussi, un moment. Ça a été difficile pour moi. Vraiment sentiment d'abandonner mes enfants, tu vois, et de ne pas réussir à...
Je ne me lève pas pour eux.
Ouais, c'est ça. Mais tu vois, et ça qui est intéressant, c'est que même si tout était propice au niveau de l'organisation à ce que ça se passe bien, parce qu'en plus, avec mon mari, on se relayait, donc tu vois, même si on passait des nuits horribles, en soi, enfin, on a eu plein d'organisations différentes, mais j'avais 3 nuits où moi, j'étais en charge, donc ça veut dire que j'avais aussi 4 nuits...
Où tu pouvais dormir.
Où je pouvais dormir.
Ouais.
Mais je me sens, mais on était quand même épuisés parce que même 3 nuits blanches sur cette nuit.
Oui, puis 3 bébés.
Et 3 bébés.
Attends.
Non, mais ouais, c'est
clair. Même si tu dors, 3 bébés quand même.
Ouais. Mais là, tsunami fois 1 milliard parce que celui de Jack, il n'avait pas été réglé en fait. Donc ça fait que amplifier tout ça. Et là, là, c'était horrible, vraiment. Enfin, bon, du coup, oui, dépression. Même si. J'adore ma psy parce qu'elle me dit, mais à la fin, je la vois encore du coup, mais un des derniers rendez-vous, c'était vraiment une période sombre. Je lui dis, mais du coup, c'était ça, c'était une dépression ce que j'ai vécu, parce que tu sais jamais en fait, c'est quoi une dépression. Ouais. Elle me dit, mais en fait, peu importe.
Ouais, mais parfois mettre le mot, c'est important.
Oui, ouais.
Tu sais, c'est vrai. Ça explique des choses, ça veut dire quelque chose. Alors, si généralement, les périodes intenses de. De dépression, de tristesse intense, de vraiment gros remaniement, des choses très, très difficiles. Pendant le postpartum, il n'y a pas 36 000 mots, en fait.
Ouais, c'est vrai.
À partir du moment où ça dure plus de 2 semaines après le postpartum immédiat, donc en plus, toi, tu dis que ça commence après, c'est une dépression postpartum.
Ouais.
Et poser le mot, c'est pour certaines, peut-être pas pour tout le monde, hein, j'en sais rien, je ne parle pas au nom de toutes les femmes, et des hommes, parce que les hommes font aussi des dépressions postpartum. Mais poser le mot, c'est donner déjà un premier pas parfois vers la guérison. C'est dire, ok, je ne suis pas folle, ce que je vis, c'est vraiment un vrai truc. Et surtout, c'est une pathologie, en fait, qui se soigne.
Ouais.
Et c'est ça, en fait. C'est que ce n'est pas un état qui dure. La dépression postpartum ne dure pas, en fait. Elle dure, même si elle n'est pas prise en charge, elle ne dure pas. Contrairement à la dépression, plus de manière générale, qui sont hors postpartum, elle s'installe, elle dure, l'état dépressif, mais la dépression postpartum, elle a une fin. Et c'est ça qui ça peut donner de l'espoir aussi.
Oui,
en fait,
c'est vrai.
Tu vois.
Ouais, t'as raison. Je comprends complètement. Ouais, du coup, grosse dépression postpartum, on peut le dire. Mais c'est vrai que je le dis jamais. Enfin, tu vois, le fait qu'elle m'ait dit ça, j'ai, du coup.
Est-ce que tu.
C'est pas par honte du tout. Hein.
Non, mais une question de légitimité. De dire, en fait, si mon professionnel de santé n'a pas mis les mots, c'est peut-être que c'est pas ça, ce que j'ai vécu.
Non, non, parce que je sais qu'au fond, c'est ça. Mais en fait, moi, là-bas, je suis quand même quelqu'un de... J'adore vivre, tu vois. Et du coup, dans un sens, ça me fait un peu du bien, même si je sais que ça a vécu, que je l'ai vécu et que j'en ai vraiment pas honte et que je le dis ouvertement. Enfin, ouvertement, pas forcément, mais je le dis, en tout cas. Mais j'associe pas non plus... les jumeaux à dépression postpartum. Enfin, j'associe à les jumeaux, ça a été hyper compliqué. J'ai vécu des choses de dingue. Mais en fait, c'est surtout qu'avec tout le travail que j'ai fait avec ma psy et avec moi-même aussi, ça m'a tellement apporté. Tu vois, d'aller en profondeur.
Ah oui. Mais la dépression postpartum n'a pas seulement un impact négatif. C'est hyper douloureux à vivre, mais généralement... Enfin, en fait, la dépression postpartum, de mon avis... n'arrive jamais par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un signe du corps qui te dit tu ne peux pas continuer dans cette direction. Et les femmes très heureuses, avec une joie de vivre comme ça, sont aussi touchées par la dépression postpartum parce que ça n'a rien à voir. Généralement, ça prend racine ailleurs. Ça n'a rien à voir avec nos enfants, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant et qui est important, je pense, à pointer, c'est que les enfants ne sont pas la cause. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler sur le devenir mère et sur vraiment le, la maternité et la paternité aussi. Hein. Mais parce que c'est un changement intrinsèque, c'est vraiment quelque chose d'interne et qui n'a rien à voir avec nos enfants. Il y a des facteurs, entre guillemets, aggravants des enfants qui ne dorment pas, par exemple, des enfants avec des pathologies. Enfin, il y a des facteurs aggravants, mais la cause n'est pas l'enfant. La cause vient... de quelque chose, voilà. Il y en a plein des causes. Ça peut être des violences dans l'enfance, ça peut être un schéma dysfonctionnel, ça peut être plein de choses. Ça peut même être pas venir de l'enfance. Généralement, ça vient quand même d'un truc, d'un lien avec avec les parents. C'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est jamais l'enfant qui est la cause. Et c'est difficile, hein, parce que comme ça intervient à ce moment-là, on a tendance à associer. Alors qu'en fait, ça l'est pas. Et puis, ça peut aussi bien arriver à un premier, qu'à un deuxième, qu'à un troisième. En fait, peu importe.
Et c'est pour ça que je te disais, malgré une organisation idyllique, ben, en fait, ça m'est tombé dessus parce que ça devait. En fait, j'avais vraiment besoin de ça. Tu parlais de transparence psychique. Et ça, je l'ai vécu à fond, en fait. Des trucs, des flashs, des choses qui remontent. Tu ne sais pas trop expliquer pourquoi, du comment, des relations. Tout revient par rapport à ton père, ta mère, tout ce qui s'est passé dans ton enfance. Et j'avais vraiment besoin de ça, en fait, pour, ben, comme on disait, la maternité, pour remettre les compteurs à zéro sur qui je suis, qui j'avais envie de devenir et quel schéma familial, justement, je voulais avoir, moi. Et aussi mettre en avant tout ce qui n'était pas OK de l'héritage que j'avais reçu de mes parents. J'ai hérité... Et je suis quelqu'un, on dirait pas comme ça, mais qui peut être très colérique et vraiment vrillé et pas du tout... Enfin, je gérais parce que je travaille vraiment beaucoup dessus. Mais je gérais très mal mes émotions, de pas avoir confiance en moi aussi, de pas me sentir capable. Alors, en même temps, j'aime bien le challenge, mais je me sentais jamais capable. Tu vois, j'y vais, mais je vais pas jusqu'au bout. Mais pourquoi je vais pas jusqu'au bout, tu vois? Et donc, bah, avec ce travail psy, et voilà, moi, tout ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai détricoté énormément de choses. Et je travaille encore, parce que les jumeaux n'ont que 2 ans. Donc, c'est quand même en cours, mais j'ai énormément changé, évolué grâce à ça, quoi.
Bah oui.
Et sans ça, j'aurais jamais pu faire ce travail aussi profond, couper, en fait, certaines racines, en fait, pour créer mes propres racines. Je fais du yoga, tu sais, j'avais lu un truc sur le chakra sacré. En fait, une phrase disait qu'en gros, on pouvait couper nos racines pour être notre propre mère. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais, mais oui. En fait, ça veut dire que je ne serais pas forcément la mère que j'ai eue. Parce que même si j'aime ma mère et qu'elle m'aime, je n'ai pas envie d'être ce qu'elle est, la mère qu'elle est et qu'elle a été. Enfin, sur certains points, oui, mais sur d'autres, non. Et ça m'a fait du bien, en fait, de me dire, mais non, t'es pas ta mère, en fait. Tu peux être juste Agathe. T'es pas forcément non plus... Le père, c'est, en tout cas, moi, c'est moins présent, un peu quand même, mais pas autant que ma mère. En plus, parce que j'ai vécu avec ma mère. J'ai pas eu trop de relations, au final, avec mon père. Et ça m'a apporté beaucoup de force. Le yoga aussi, parce que je te parle que du travail avec ma psychologue, formidable. Mais également, le yoga, ça m'a énormément aidée. La naturopathie aussi m'a énormément aidée, parce que c'est une prise en charge holistique. Et mon mari aussi, il faut que je le dise. Il m'a énormément soutenue. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce
la
que...
La place du père, la place de l'aidant dans la dépression postpartum et dans ces changements.
Ça doit être horrible.
Franchement, 50% des pères dont la compagne a vécu une dépression postpartum en font une. Ce qui est normal, hein, ça la décompensation. C'est normal.
Ah ouais, on en parlait il y a pas longtemps, je ne sais plus avec qui, mais on parlait de cette période-là, de mon postpartum, enfin de notre postpartum. Et en fait, je disais, mais je pense que pour Adrien, ça a dû être tellement dur. Déjà, effectivement, d'avoir les 3 enfants à gérer, il gérait tout autant que moi. Donc, c'est une normalité pour laquelle je me bats, mais ce n'est pas le cas de tous les coparents. Et en plus de ça, il a dû me soutenir à fond. Et il s'en est pris plein la gueule, clairement. Il s'en est pris plein la gueule parce que j'étais dans un remaniement tellement profond que je lui dis des choses... Vraiment.
Puis ça
costaud,
doit pas
quoi.
Être simple de... Parce que tu vois, t'épouses ou tu rencontres ou tu tombes amoureux d'une personne. Et quand la maternité a un tel poids, enfin, ça change à ce point ta personne, ben en fait, il faut retomber amoureux de cette personne-là aussi. Ouais. Bon, après, le coparent change aussi avec la parentalité. C'est pas... Enfin, c'est... C'est le couple hein, qui devient famille. C'est pas juste la mère qui devient mère et le père, il fait ce qu'il peut. C'est pas ça du tout. C'est vraiment une question de couple. Mais il y a des choses à réécrire, en fait, puisqu'on sait peut-être un peu plus ce qu'on veut aussi. Bah, il y a vraiment des choses à... Un nouveau lien presque à tisser.
Ah, mais oui.
Qui est difficile et qui s'apparente à une tempête. Tu vois, moi, je l'ai vécu, ça. Pas forcément suite à... Bon, quoique, finalement, on pourrait se poser la question, mais moi, mon mec a fait un burn-out professionnel qui est arrivé quand notre fille avait 1 an et demi. Donc, en fait, tu sais, ça pourrait être presque assimilé au postpartum. Hein. C'est un changement majeur, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais envisagé de cet angle-là. Ça pourrait être intéressant d'y repenser. Ben, en fait, moi, le rôle d'aidant, je l'ai eu aussi. Et en fait, c'est très difficile d'avoir ce côté qui es-tu ? Enfin, tu remanies toute ta vie, c'est bien, mais moi aussi, parce que postpartum et parce que aussi, pas une dépression postpartum parce que j'ai été accompagnée, mais vraiment un gros changement. Bah, en fait, cette période-là, elle est. Enfin, voilà, il faut. Après ces périodes de crise, parce qu'il y a la période de crise, en fait, il faut apprendre à se réapprendre à se connaître, en fait. Et ouais. Ça, c'est dur. C'est pas simple.
Ah oui, ça fait énormément de sens ce que tu dis, parce que moi, déjà, j'ai. En fait, c'est vrai, ce que j'ai détesté dans ma maternité, c'est de devenir une autre personne. Mmh. Et notamment dans mon couple. En fait, tu vois, avant, dans notre couple, on était tous les deux très spontanés, dernière minute, machin. Et avec la maternité, je suis devenue une toquée de l'anticipation, de l'organisation, au point d'en être vraiment chiante. Enfin, je me vois, mais à peine levée, genre, t'as fait ci, t'as fait ça, non. Enfin, toujours très stressée, respect du rythme. En plus, comme il dormait mal et que je savais que le rythme, c'était important. Enfin, et tout ça, en fait, tu sais, j'étais pas bien avec moi-même. Et j'aimais pas du tout la personne que j'étais devenue à cause de la maternité. Et je me suis dit, mais où est l'ancienne moi, en fait ? Et ça m'a mis en colère aussi. C'est-à-dire, mais pourquoi tu perds ton identité comme ça ? Et en comparaison, alors que mon mec, ça n'a pas changé, tu vois, lui rester. En fait, j'étais jalouse de lui parce que lui, il était hyper cool, zen, machin. Et dans notre couple, effectivement, ça crée du coup, lui, il me disait, il dit, mais tu te comportes comme ma mère. Enfin, et du coup, tu n'as plus du tout cette notion du couple, de la séduction. Enfin, encore que ce n'est pas juste centré sur la séduction, mais juste du couple, en fait. Toi, moi, on se parle bien, Et c'est vrai que ça a été très difficile à gérer dans notre couple. Et de toute façon, notre couple, là, ça a explosé là, en début d'année avec tout ce qui s'est passé. Et oui, c'est vrai, quand tu vois, là, en te racontant tout ça, je me refais un peu le fil en mettant à sa place. Je crois que ça lui fera du bien d'écouter ce podcast parce que je ne l'ai jamais vraiment dit, mais heureusement qu'il a été là et je pense que... Enfin, il a été vraiment très fort, quoi. Très fort et c'est la plus belle preuve d'amour, je pense, que qu'il pouvait me faire.
Complètement. Parce que il n'y a pas que ton couple qui a été bouleversé, si j'ai bien compris et suivi le chemin, il y a ta vie professionnelle aussi.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Tu disais tout à l'heure que au bout de 4 mois, tu avais cette formation en naturopathie qui t'appelait en fait et qui te permettait de voir un peu la lumière au bout du tunnel.
Ouais.
Comment ça se passe ? Est-ce que tu l'as fait, cette formation ?
Alors, oui, en fait, je l'ai faite. En fait, je me suis dit, je ne sais pas trop où je vais aller, mais je vais arrêter d'avoir peur et je vais tester. Mmh. Et puis, à un moment donné, je trouverai. Et donc, je suis partie faire cette formation de naturo parce que ça a toujours été un peu en moi, tu vois, cette approche holistique, naturelle. C'était formidable. J'ai rencontré des personnes vraiment très chouettes. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à créer mon compte Instagram, qui à l'époque s'appelait Bien comme Mama, et je parlais de sujets en lien avec la parentalité. Je voulais tout raconter, dire tout ce que j'avais ressenti et tout.
Avec un sentiment de colère, non ?
Ah, bien sûr. Jamais. Ouais, j'étais beaucoup là-dedans.
C'est pour ça qu'on échange aujourd'hui. En prenant un café, il naît de cette colère-là aussi.
Ah ouais.
C'est fou, hein ? Il y a beaucoup de choses qui naissent de cette colère-là.
Ah, ouais. Ah oui, t'as envie de crier à la terre entière.
Ton injustice.
Ouais, l'injustice, quoi. Et donc, bref, je fais ma formation qui me prenait déjà pas mal de temps. En parallèle, du coup, j'avance sur mon compte Instagram et avec ce que j'avais en tête de créer une préparation au postpartum. Donc, avec différentes thématiques, de préparer au mieux et d'accompagner au mieux. On parle de préparation à naissance, mais le postpartum, en fait. Parce que pareil, pour mon accompagnement global pour Jacques, ma sage-femme était formidable. Mais en postpartum, il n'y avait plus personne. Et pas de sa faute, parce que
c'est pas
possible
prévu.
Pour elle de le mettre en place, tu vois. Donc, j'avais vraiment ça en tête. Donc, je dis, bon, allez, Je savais pas trop, je suis sage-femme, mais tant pis, je l'ai fait avec les moyens du bord et tout. Donc, on arrive à peu près à décembre, janvier. Et aussi, pendant le postpartum des jumeaux, j'écrivais beaucoup. Mmh. Surtout les... Pas forcément, j'écrivais pas un roman, tu vois, mais juste des tips en mode, allez, il faudrait faire un livre avec juste tous les tips, quelque chose de très concret, du concret. Concrètement, comment ça peut se passer, quoi. Mmh. Comment tu peux bien vivre ton postpartum, enfin, mieux le vivre.
Mmh. Ouais, et... avoir les clés, quoi. Parce qu'il n'y a pas de recette magique pour le postpartum. Il n'y a pas de choses qui peuvent presque prévenir la dépression du postpartum parce que c'est tellement multifactoriel que tu ne peux pas vraiment.
Bah oui.
Mais tu peux l'accompagner au mieux.
Et puis sans forcément être dans la prévention de la dépression du postpartum, dans cette préparation postpartum, tu vois, mais juste dire ben voilà, comment trouver des réponses en fait, à tout ce qu'on vit dans, lors de cette période. Et puis, en parallèle avec Justine, on se côtoie via Villa Yoga, c'est pas simple à dire. Et puis un jour, en janvier, je vais la voir, je dis, donc je peux pas dévoiler ce projet pour l'instant. Je vais la voir, je dis, voilà Justine, j'ai ce projet-là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire avec toi. Alors qu'on se connaissait, mais tu vois, enfin on se connaissait pas vraiment, juste, ah salut Justine, ça va, ouais et toi, j'étais venue à un cours yoga postnat quand elle était prof, et elle était venue à un cours quand elle était enceinte de Martha. Et je sais pas pourquoi, je me dis, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, tu vois. Je la connaissais que via les réseaux et un peu comme ça. Et je prends un peu mon courage à deux mains, parce qu'en plus, tu vois, à l'époque, maintenant tu m'impressionnes moins, Justine. Mais elle m'impressionnait un peu, tu vois, elle était, yogin mama, assez connue, etc. Et elle dit, ouais. Tout simplement, grave, j'avais aussi ce projet-là. Et donc, elle avait sa plateforme. Moi, je crée ma préparation postpartum et on avait ce projet en commun. Et moi, très vite, je lui dis, vas-y, viens. Donc, il y avait ce projet en commun, mais sur le projet que j'avais aussi avec la préparation postpartum, je lui dis, viens, on fait ensemble en fait, ce qu'on crée là maintenant. Je lui dis ça assez tôt. Et elle me dit, ok. Bon, elle me dit pas ok. Au début, elle dit un peu oui. Après, elle dit, bon, moi, je fais mon truc. On apprend à se connaître. Elle me dit, on apprend à se connaître via ce projet commun et tout. Et je dis, mais très bien, en fait, c'est top qu'elle me dise ça, parce qu'il faut que je fasse les choses par moi-même, tu vois. Faut que j'arrête de dépendre, parce que j'avais un souci de dépendance aussi par rapport à la relation que j'avais à mon père, enfin, ou que j'ai pas eu par rapport à mon père, où j'étais très dépendante de mes partenaires, et dont d'Adrien, et ça a été un peu problématique dans notre couple, mais ça, c'était avant d'avoir des enfants, et Adrien m'a un peu mis des stops, et ça m'a aidée, du coup. Et donc, je savais qu'il fallait que je travaille sur « Ok, Agathe, n'aie pas peur, tu peux le faire par toi-même. » Et grâce à Justine qui m'a dit, fais ton truc, fais mon truc, on verra. Et je dis, ouais, je le fais. Et puis en plus, du coup, je devais un peu lui montrer, tu vois, lui faire un peu, enfin, faire mes preuves, tu vois, entre guillemets. Ça non plus, elle le sait pas, mais... Et donc, on travaille sur ce projet commun. Et en juillet, bon, moi, j'étais à deux doigts de sortir mon site pour tout ce qui était... Je voulais faire vraiment une plateforme et uniquement d'accompagnement au postpartum. Et en juillet, on était à Paris pour notre projet commun et elle me dit... Elle reparle de ça, en fait, de notre association. Et moi, je dis, oui, bien sûr, enfin, mille fois, mais du coup, comment ça se passe enfin, du coup, Et bref, on s'est mis OK, et finalement, je n'ai pas lancé, du coup, ma plateforme, et on s'est fusionné, en fusionnant vraiment nos deux projets. Donc ça a été de officialiser en septembre, et de septembre à décembre, du coup, on a travaillé sur Holy Mama. Et donc ça, donc le professionnel... Et là, voilà, vraiment cette période-là, je me suis sentie tellement revivre, être tellement bien. Vraiment, je me suis dit, mais enfin, je me suis trouvée.
T'es à ta place.
Ouais, complètement. Mais ça a été aux dépens, quand même, de un peu ma vie de famille, mais surtout mon couple, où j'ai eu un espèce de sentiment de... Tu vois, j'avais envie de penser un peu qu'à ma gueule, tu vois, clairement. Mmh. Désolée pour les gros mots. Et c'est vrai que j'étais assez égoïste. Et comme j'avais eu cette colère de pourquoi pas les femmes, en fait. Pourquoi c'est aux mères d'eux. Et donc, du coup, c'est vrai qu'Adrien, à partir de ma formation naturo, donc des 4 mois postpartum des jumeaux, c'est lui qui a eu ce rôle de papa au foyer. Et c'était pas simple pour lui, parce que lui, c'est un entrepreneur qui bossait comme un taré. Et en fait, tout ça, encore une fois, il l'a fait par amour. Pour moi, pour notre famille, parce qu'Adrien, lui, pour le coup, son idéal de vie, c'est vraiment la famille, c'est hyper important pour lui. Et tu vois, pendant quasiment un an, j'en avais besoin, tu vois, plus mon travail d'accompagnement psy à côté. Et c'est vrai que je compte pas mes heures. J'ai beaucoup travaillé. Adrien a beaucoup géré au niveau du perso. Et moi, j'étais, comme je l'ai faim. Je le remercie. Après, ça ne me paraît pas anormal qu'il ait fait ça.
Enfin, parce que toi, tu l'as fait aussi avant.
Oui. Et c'est vrai que, parce qu'on a vu, on voit un thérapeute avec Adrien et le thérapeute a mis le mot de rivalité. Et c'est vrai que je pense que j'ai eu un peu ce côté-là, tu vois, genre, pourquoi pas nous, quoi. Enfin, pourquoi pas nous, les femmes aussi. Et ce qui fait que, du coup, dans notre couple, niveau repère, ça a été très compliqué. Enfin, tu vois, je passe de la nana un peu perdue, pas confiante en elle, je vais être mère au foyer, je m'occupe de mon enfant à temps plein, etc. La girl boss, quoi. Et donc, du coup, ouais, dans notre couple, ça a été très, très explosif. On avait besoin de remettre un peu les compteurs à zéro. Et on le fait. Je dis pas on l'a fait parce qu'on n'a pas fini. Mais depuis novembre, du coup, on remet les compteurs, on travaille sur notre couple. Tu vois, on a parlé un peu du couple tout à l'heure et c'est vrai qu'on n'est pas préparé à vivre ça. Et du coup, moi, j'ai vécu aussi ce remaniement plutôt en postpartum. Moi, j'appelle ça le remaniement postnatal. Mmh. C'est plutôt en postnatal, moi, le devenir mère qui m'expose en figure, en pleine figure. Et voilà, du coup, on travaille là-dessus dans notre couple et on lance Olimama demain. C'est marrant d'ailleurs que je sois là aujourd'hui.
C'est comme clôturer un chapitre pour en lancer un nouveau, même si ça reste une continuité. Hein, mais les dates sont jamais anodines.
C'est vrai.
Parce que bon, c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de ce podcast. Il est prévu depuis longtemps, cet enregistrement, depuis quelques semaines déjà. Donc en fait, il y a encore une fois pas de hasard. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, dans ton discours, c'est vraiment, c'est un remaniement, comme tu dis, mais dans sa globalité. J'aime aussi le fait que tu normalises la thérapie de couple. Parce que ça, c'est, je crois que c'est le truc qui passe en tout dernier. Dans toute cette spirale, dans tout ce tourbillon, c'est ce qui arrive en dernier. Et pourtant, enfin, c'est une base solide, quoi.
C'est le socle.
Quand c'est sain, quand c'est... Enfin voilà, quand il y a vraiment quelque chose de... Je perds mon mot, pourtant c'est sûrement un mot que j'utilise tout le temps. Mais quand c'est sain, quand c'est vraiment constructif, quand c'est pas toxique, tu vois, la relation de couple, elle vaut le coup de la travailler et je pense que c'est utile et intéressant. Et je pense que même la préparation à la parentalité au global devrait se faire en couple quand on est en couple, en fait.
Mille fois,
c'est sûr. Parce que c'est vrai que les seconds parents sont souvent mis de côté, finalement, dans tout ce parcours de soins aussi.
Complètement.
Bon, le Covid a en plus rien arrangé avec l'interdiction au rendez-vous, certaines mamans qui ont même accouché seules. Enfin, c'est pas simple.
Moi, je trouve ça honteux, carrément.
Ouais. Non, mais complètement. Ouais. Mais le fait que les seconds parents soient pas intégrés à tout ce parcours, même à la mater, où il y a encore énormément de maternité, où ils sont pas acceptés pour dormir, alors que, c'est pas une question de confort, c'est une question de nécessité.
Complètement.
Et donc, du coup, comme on les intègre pas dans le parcours dès le départ, ben forcément, ils vont pas aller... c'est pas naturel d'aller chercher leur place pour eux aussi. Et puis, en plus, quand la mère vit le tourbillon qu'elle vit, c'est encore plus difficile. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de pouvoir, à un moment... Alors, tous les moments sont pas opportuns pour le faire, je pense pas. Mais à un moment, de se prendre la main et d'y aller ensemble pour écrire la suite, en fait. Tout simplement de dire, OK, alors il s'est passé ça. Qu'est-ce qu'on veut être maintenant? Est-ce qu'on veut être ensemble maintenant? Est-ce que cette famille, on la voit ensemble ou séparément? Et construire et reconstruire, en fait, un nouveau chapitre, quoi. Et j'adore que t'en parles aussi comme ça. Et voilà.
Après, c'est pas évident. Autant, tu vas sur Instagram, j'ai tout le temps « sans tabou », etc. Et en fait, notamment avec la thérapie de couple, je mourais d'envie d'en parler parce que ça nous a tellement apporté. Et c'est ce que j'ai fait, mais je me suis quand même pas mal posé la question parce que ça n'implique pas que moi.
Oui, bien sûr.
Et comme tu dis, c'est pas du tout normalisé. C'est vite associé une grosse faille, à une faiblesse, un échec. Mais bon, moi, pas de tabou.
Oui, puis en plus, si tu veux, j'ai l'impression que quand on parle du couple, après la parentalité, on parle que de sexualité. Tu vois, genre la reprise des rapports, le machin, tout. Enfin, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, ça a un lien avec la sexualité.
Ouais.
Alors qu'en fait, pardon, mais Cosmo nous a menti, le ciment du couple, c'est pas la sexualité. Ça en fait partie, et voilà, selon les histoires, selon les couples, c'est plus ou moins important, et ça, c'est propre aux personnes. Mais c'est pas la sexualité, la fréquence des rapports ou la rapidité de la reprise des rapports sexuels, quels qu'ils soient, après la naissance, qui fait que ton couple est en bonne santé. Pardon,
c'est sûr.
Mais par contre, on entend beaucoup ça. Alors oui, c'est une sphère qui se questionne et qui, voilà. Mais à mon sens, c'est pas tellement ça.
Ah oui, non, mais il y a un no man's land autour du couple et de la parentalité qui est énorme. Et comme tu dis, et ça renvoie à ce que je te disais sur la colère que j'ai sur la société, c'est qu'effectivement, on ne donne pas la place aux coparents. Et ça se répercute sur tellement de choses derrière, en fait.
Bah ouais.
Et je trouve qu'en fait, quand j'y pense, je me dis, mais on est au Moyen-Âge ou quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça dingue que ce soit encore comme ça en France aujourd'hui. Ouais.
Donc, tu nous disais demain,
et donc
Oli
demain,
Mama. C'est quoi Oli Mama? On va faire un petit peu. Attends, on va quand même faire un peu de promo. Hein. On est un peu là. Enfin, on n'est pas là pour ça, mais en même temps, c'est tellement important ce programme que oui, mille fois on le fait.
Et c'est vrai qu'il est important parce que tu vois, c'est vraiment un truc qu'on construit avec nos tripes. Et je pense que tout ce que je viens de raconter là, ça le montre. C'est pas un truc qu'on fait. Enfin, c'est un truc qui vient de notre trip, quoi, en fait. Et donc, Oli Mama, c'est la méthode holistique qui révolutionne ta mama life. En d'autres mots, c'est une plateforme où tu retrouves en ligne tout ce dont tu as besoin dans un seul et même endroit pour kiffer ta parentalité, moins subir ta parentalité. Et ça passe par du contenu où tu peux bouger. Donc, tu retrouves du yoga, du pilates, du cardio, où tu peux t'informer. Donc, on a vraiment tous les experts de la périnatalité et aussi de la parentalité, comme des sexologues, des thérapeutes, des coachs en sommeil, etc. Plus une communauté de mamas avec qui tu peux échanger. Donc, c'est vraiment... c'est cette idée d'approche globale pour se sentir au mieux dans sa mama life, mais sa life aussi.
Bon, de toute façon, la
tout
mama
court.
Life, elle dure toute la vie, en fait.
Complètement.
Aussi, tu vois. À partir du moment où tu as dans l'idée de le devenir, ça fait partie de ta vie.
Complètement.
Même donc bien avant la conception.
Tu as raison, et d'ailleurs, c'est en projet justement qu'on intègre le trimestre zéro sur Oli Mama.
Bah oui, parce que selon les couples, les personnes, ils durent plus ou moins longtemps, et il a une grosse importance sur
et
la
on
suite.
Et on est déjà dans notre parentalité. Ouais. Quand on est dans ce process.
Ouais, complètement. Mm. Écoute, je te remercie, Agathe.
Merci à toi, Elise.
Pour ta confiance, pour m'avoir livré tout ça. Je suis sûre que ça va aider d'autres mamans, d'autres femmes qui auront vécu des expériences similaires ou des papas qui pourront peut-être comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de leur compagne. Je te remercie et puis on va s'inscrire
sur
Oli Mama.
Bah oui, avec plaisir. À bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix. Et tu écris ce que tu veux dans la section « Avis ». Par exemple, le 29 novembre 2022, Camille the Nurse écrivait « J'adore ce podcast, des invités et des sujets autour de la parentalité toujours juste de sens, tout en bienveillance et chaleur humaine. Un réel plaisir à l'écoute. Je ne suis pas encore maman, mais j'aime l'écouter car les sujets me donnent des clés pour l'avenir. » Merci Camille pour ce message trop sympa qui fait du bien à mon petit cœur de podcasteuse. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.